autour de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous demander comment enseigner, pratiquer et transmettre les sciences en pays d'islam. Immense question, ô combien sensible et d'actualité, qui est au cœur de la réflexion, j'ai envie de dire du combat de notre invitée, la physicienne Fawzia Sharfi, professeure à l'université de Tunis, engagée de longue date dans la vie politique, intellectuelle et universitaire en Tunisie. Fawzia Sharfi vient de publier aux éditions Odile Jacob un nouvel ouvrage qui une fois encore met les pieds dans le plat, l'islam et la science, en finir avec les compromis. Ouvrage dont nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs, qui êtes souvent en première ligne sur le continent et qui êtes déjà nombreux d'ailleurs à réagir sur nos réseaux sociaux. Pourquoi et surtout comment séparer science et religion, quelle qu'elle soit? Comment revisiter la très riche histoire des sciences arabes pour nous rappeler à quel point c'est l'ouverture et non l'enfermement qui a permis son âge d'or et donc d'en tirer les conclusions qui s'impose pour aujourd'hui, ici comme ailleurs, autour de la question pourquoi pas de compromis possible entre science et religion. Bienvenue pour nous interroger ensemble avec comme première source d'inspiration la bande originale d'un film engagé et libérateur, celui de la cinéaste tunisienne Leïla Bouzid.
مش خايفين في الفارغ ليه فما بوليسيه تبعت.
À peine j'ouvre les yeux, extrait de la bande originale du film de Leïla Bouzid, une voix tunisienne engagée comme vous et qui vous inspire, Fawzia Sharfi. Bonjour.
Bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous, d'avoir profité de votre passage à Paris pour être en direct avec nous autour de votre nouvel ouvrage. C'est le troisième, hein, publié chez Odile Jacob après La science voilée et sacrée question pour un islam d'aujourd'hui. La physicienne que vous êtes, professeure à l'université de Tunis, femme politique engagée, ne baisse pas les bras, bien au contraire, vous continuez, Fawzia, à nous alerter, à poser toutes les bonnes questions, même celles qui fâchent, dans cet ouvrage à la fois percutant, érudit et salutaire, donc l'islam et la science, en finir avec les compromis, carrément, Fawzia Sharfi.
Tout à fait, en finir avec les compromis, la science et la religion doivent être dans deux sphères tout à fait séparées, c'est ce que j'essaie de montrer dans cet ouvrage, et en fait, la science, avec sa méthodologie, avec son ouverture sur le monde, ses interrogations, ne sont pas compatibles avec une lecture littérale des textes sacrés ou bien même une interrogation sur les phénomènes de la nature qui va toujours être conditionnée par une supposée transcendance. Mais chacun son domaine. Bon, donc, je ne touche pas au domaine de la religion, de ceux qui ont la foi, comme Abdeselem, j'en parle dans l'islam et la science, c'est un physicien qui nous inspire et je montre comment ce grand croyant qui était physicien, prix Nobel de physique 1979, analysait le déclin de la science en pays d'islam, en étant lui-même pakistanais, lui-même physicien des particules, vous voyez. Et donc, je montre comment il compare un peu l'évolution de la science entre... Mais c'est une très belle histoire, vous la lirez dans l'islam et la science.
Mais absolument, dans votre ouvrage, l'islam et la science, c'est une très belle histoire, parce que ce que vous démontrez à travers cet homme-là, ce prix Nobel de physique, mais ce que vous démontrez dans cet ouvrage, l'islam et la science, Fawzia Sharfi, preuve historique à l'appui, hein, en revisitant toute la grande, longue et très riche histoire des sciences dites arabes, hein, des sciences en pays d'islam, et bien vous nous montrez que finalement, cet âge d'or des sciences arabes, dès le début, il a coïncidé avec une ouverture aux autres. C'est-à-dire que dès le début, c'est pas du tout en se refermant sur ses croyances, c'est en s'ouvrant que les sciences arabes ont connu un véritable âge d'or, ont été précurseurs.
Tout à fait, et j'explique donc dans mon livre... l'islam et la science, je le redis, parce que on peut dire que c'est contradictoire comment j'intitule l'islam et la science alors que je veux les séparer. Mais en fait, dès le départ, la science dans ces pays, dans cet empire abbasside, donc 8e, qui est à partir du 8e siècle, on souffre à la traduction de cette science qui était écrite en grec, écrite en sanskrit, la science persane. Et alors, cette belle histoire commence à Bagdad, donc Bagdad qui a été créée par le calife Al-Mansour, je reviens sur cette ville ronde, Bagdad, et qui, lui, s'installe donc dans cet empire qui était anciennement empire sassanide, et qui avait donc cette grande tradition dans le zoroastrisme, cet attachement d'une part à la science, et cet attachement, en fait, à la traduction, parce que dans cet empire sassanide, on avait déjà retraduit en persan des textes qui appartenaient donc à l'ancienne traduction et qui avaient été dispersés après la conquête d'Alexandre de cette ancienne Perse. Voyez, donc j'essaye de retracer cette histoire-là. Pourquoi ? Parce que justement, souvent, on dit c'est la science islamique. Et cette science en pays d'islam, Elle a commencé, au contraire, ouverte sur le monde.
C'est ça. Oui. En commençant, et en ne s'arrêtant pas là-dessus, on va y venir, hein, en commençant par traduire tous les autres, et vous citez, alors là, pour le coup, je trouve ça génial, parce que vous, Fawzia Charfi, physicienne tunisienne, vous citez un professeur au Collège de France, Alain de Libera, qui est lui spécialiste historien du Moyen-Âge, et qui dit, Alain de Libera, il est regrettable qu'un lycéen arabe de France, alors moi j'ai envie d'ajouter ou d'ailleurs, hein, ne sache pas que de la fin du XIe siècle, Ibn Bajjah prêchait déjà une double séparation du philosophe et de la société, de la philosophie et de la religion. Ouais. Et philosophie, c'était toutes les sciences. Donc déjà, dès le départ, ces débats-là, ouais, séparés, ouais, science et religion, science et islam, sont à l'origine même de ces sciences arabes flamboyantes qui ne sont pas des sciences islamiques, qui sont des sciences dites arabes, c'est ça?
Tout à fait. Alors, dites arabes parce qu'elles étaient écrites en arabe, mais c'était déjà des savants, on va dire, internationaux. Et Bagdad était une ville foisonnante de culture. Il y avait des musulmans, des non-musulmans, des arabes, des non-arabes, des perses. Et c'est cette richesse, en fait, culturelle que je veux retracer aussi. Parce que, vous voyez, s'enfermer, hein, comme certains le font aujourd'hui, c'est ça que je veux défaire. Hein. Et puis, oublier... Pardon, juste que ces premiers siècles, on ne s'est pas contenté de traduction, comme le dit Alain de Libera. Au contraire, on a aussi produit de la science.
C'est ça, on a aussi produit de la science. On va entendre d'ailleurs une mathématicienne, historienne des sciences là-dessus. Mais je voudrais juste dire que finalement, cet oubli de l'âge d'or des sciences arabes, cet oubli finalement, il est aussi vrai en Occident qu'en Orient. C'est-à-dire que de part et d'autre, c'est comme si on avait un peu occulté ou qu'on a gardé ce qui nous arrangeait. Donc les savants arabes, grands traducteurs, mais donc, ouais, du coup, voilà, c'est bon, ils n'ont rien produit, ce qui, oui, n'est pas vrai. Ouais. Ou alors du côté de l'Orient, de la science islamique. Or non, ce n'était pas de la science islamique. Et l'oubli est aussi fort des deux côtés. C'est ça.
Tout à fait. C'était la science qui se construisait, qui continuait donc dans ces pays d'islam. Et effectivement, quand on dit elle se construisait, de nouvelles disciplines ont commencé. Bon, vous avez cité une historienne des sciences,
Karine Chemla, que je vous propose d'écouter tout de suite, oui, avant que vous nous parliez de toutes ces sciences, de cet épanouissement des sciences, parce que Karine Chemla, justement, mathématicienne et historienne des sciences, spécialiste des mathématiques en Chine et dans le monde ancien, nous dit que justement, cette science arabe, ce n'était pas qu'une simple histoire de traduction. On l'écoute.
Bien entendu, la science qui a été faite dans le monde arabo-musulman est une science qui a été très puissamment internationale. C'est une science qui emprunte et qui prolonge des travaux qui ont été dans un premier temps écrits en grec, en sanskrit, en chinois. C'est une science qui ne fait pas que prendre et prolonger ses travaux, mais qui les mélange. Et je pense que ce travail de synthèse a joué un rôle absolument essentiel, mais peut-être sous-estimé dans l'histoire des sciences. Je pense que nous manquons de travaux sur ce rôle de la synthèse de savoirs qui venaient d'un peu partout dans le monde.
De toutes ces différentes sources mathématiques.
Voilà.
En fait.
Et la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que ce n'est pas seulement par ces sources que ces savoirs arabo-musulmans sont internationaux. Pourquoi on dit arabo-musulmans ? Essentiellement, c'est parce qu'ils ont été écrits en arabe. Mmh. Ce n'est pas par leur source, mais c'est également par leur devenir. Malheureusement, nous vivons encore dans une histoire des sciences qui est beaucoup tournée vers l'Europe. Nous nous intéressons à ce que l'Europe a reçu du monde arabo-musulman. Pourquoi ? Parce que, en fait, nous sommes le nez centré sur l'Europe. Mmh. Mais en fait, les savoirs qui ont été élaborés dans le monde arabo-musulman, ils ont été transmis en Inde, ils ont été transmis en Chine, et je pense que c'est en fait la première internationalisation des sciences. À la cour chinoise au XIIIe siècle, il y a un bureau d'astronomie musulmane où l'on pratique l'astronomie musulmane. En Inde, on a des manuscrits par milliers qui sont encore la trace de la présence des savoirs arabo-musulmans en Inde. En fait, ce savoir arabo-musulman, il n'a pas du tout émigré en Europe pour un devenir européen de la science. Ça, c'est une vision européocentrée de l'histoire des sciences. En fait, il a été en interaction avec la Chine, en interaction avec l'Inde, et les savoirs arabo-musulmans ont été traduits en chinois, en sanskrit.
Fawzia Sharfi, j'imagine que vous voulez prolonger cet éclairage de la mathématicienne et historienne des sciences Karine Chemla sur justement ce formidable savoir. Alors, elle a parlé d'astronomie, mais il y a l'astronomie. Il y a l'optique aussi qui a été inventée quand même par cette science arabe internationale.
Tout à fait. Hein? Et l'optique d'Alhazen Ibn Haytham, pour les historiens des sciences, pour les scientifiques, c'est une véritable révolution. Alors l'optique, ça commence déjà avec Al-Kindi. Au 9e siècle. Alors, c'est une très belle histoire que je retrace un peu. C'est les miroirs ardents. Mmh. Et les miroirs ardents, donc, c'était Archimède, Syracuse. Voilà, on défend l'île et puis on utilise des miroirs. Donc, on réfléchit ces rayons du soleil pour attaquer l'ennemi. Et Al-Kindi, donc philosophe et savant arabe, 8e, 9e siècle, lui, il commence déjà à s'intéresser donc à ces miroirs ardents et j'explique comment, voilà, il va un peu plus loin, il montre comment la lumière se réfléchit, puis après il s'intéresse à la lumière on peut faire la même chose aussi avec des lentilles, hein, les enfants connaissent ça dans les lycées. Alors je continue cette histoire un peu par petite touche comme mm-hmm. ça, et lorsqu'on voit par exemple le travail extraordinaire qu'a fait Alhazen, donc c'est le nom latin de Ibn al-Haytham, Alhazen a compris ce qu'était la lumière. Il a compris c'est qu'en ça. Fait, la lumière ne vient pas de l'objet, ne vient pas de l'œil, n'est pas quelque chose. La lumière se propage indépendamment de l'œil et ce n'est pas le rayon visuel donc, qui le crée. Donc la lumière, c'est la propagation donc, d'une matière, d'une forme qui s'appelle alors il n'appelle pas rayon visuel parce qu'il ne veut pas créer la confusion. Mm-hmm. Mais ce qui est extraordinaire chez Ibn Haytham, c'est qu'il introduit la méthode, c'est le premier qui a introduit la méthode expérimentale et c'est lui qui crée la chambre noire, la fameuse chambre noire que tous les photographes ont utilisée depuis quelque temps, depuis que la photographie existe. Et alors il va encore plus loin aussi dans l'étude de cette lumière qui rentre dans l'œil et qui passe au nerf optique à travers le cristallin. Lui, il pensait que c'était le cristallin qui transformait la lumière mm-hmm. et qui passait. Bon, maintenant, on sait que ce n'est pas le cristallin. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que la continuation de toute cette étude mm-hmm. de la lumière, mm-hmm. C'est la perspective, les tableaux. Vous voyez, ça, finalement, ça ouvre, c'est ce regard.
C'est ce regard sur le monde et sur l'art. Monde.
C'est une fenêtre ouverte sur les lointains, comme il dit, les sens des lointains. C'est extraordinaire de lire Alhazen. Il faut relire Alhazen.
Voilà, en fait, il faut c'est relire ça. Alhazen. Il faut se rappeler que nos algorithmes qui nous calculent tant aujourd'hui, l'algorithme, ça vient d'un savant arabe, c'est Al-Khwarizmi.
Absolument, absolument. Pardon, juste Alhazen, vous voyez, on peut dire qu'il s'est intéressé qu'à l'optique, mais il s'est interrogé aussi sur Ptolémée, il a un peu remis en cause, Ptolémée, doute sur Ptolémée, et puis...
Le doute, tiens donc,
le doute. Et Et ce qui est aussi très nouveau chez lui, j'en dessine quelques aspects là dans mon livre, c'est le fait de considérer que voilà, on va composer les sciences physiques pour en optique, les sciences physiques et les mathématiques. Parce que les sciences physiques expliquent les sens de la lumière, mais les mathématiques vont permettre de tracer le rayon lumineux, de tracer cette ligne. Donc vous voyez, c'est vraiment...
C'est vraiment tous les... Enfin, pas les prémices, mais c'est vraiment les débuts et l'origine de la science telle qu'on la connaît. Alors comment expliquer, parce que vous en parlez vous aussi, que de cet premier chapitre, c'est l'héritage universel de cette science ouverte, totalement ouverte et totalement précurseur de tout ce qui va suivre. Comment expliquer, c'est pas cette bifurcation, mais cet arrêt, comment expliquer qu'aujourd'hui, on soit face à un obscurantisme contre lequel vous, la physicienne que vous êtes, et la femme que vous êtes, et la citoyenne que vous êtes, que vous combattez ?
Que je combats, alors j'explique dans l'islam et la science cette période de basculement, en fait. Parce que au XIe siècle, Bagdad, c'était l'empire abbasside. La dynastie très forte à l'époque, c'était la dynastie chiite, les Bouaïdes. Et les Seljoukis turcs attaquent Bagdad, ils prennent le pouvoir sous les Abbasides et ils imposent le sunnisme. Et à ce moment-là, il y a un basculement au niveau de la transmission du savoir scientifique que j'explique. Et on passe des maisons de la connaissance qui étaient des institutions qui comportaient des bibliothèques, mais aussi où les savants venaient, s'il y avait l'enseignement des sciences, quand je dis des sciences, ce n'est pas les sciences religieuses, vers la création d'institutions qui s'appellent les madrasas, où on s'est limité à la science du fiqh, c'est-à-dire la science du droit islamique, des sources du droit islamique. Et donc là, c'est vraiment le début de la fermeture et la fin de la transmission du savoir scientifique.
C'est ça, on comprend vraiment cette bifurcation-là, l'oubli de cet héritage universel. Pourquoi ? Pour une science qui devient pratique et politique aussi.
Tout à fait. C'est parce que le pouvoir, en fait, donc impose le sunnisme pour s'imposer en tant que pouvoir. Hein. La spiritualité n'a rien à voir.
On est bien d'accord, ni la croyance ni la spiritualité, c'est politique.
Donc il n'y a pas d'explication essentialiste aussi. C'est ce sur quoi j'insiste beaucoup dans cet ouvrage. Et à partir de là, voilà, on va se concentrer sur les sciences religieuses et la science pratique, c'est-à-dire l'astronomie se pratique à la mosquée, c'est le muwaqqit. Il s'occupe du calendrier lunaire, il s'occupe des heures de prière, donc effectivement, il a une certaine connaissance du ciel, des tables astronomiques, etc. Mais il n'y a plus d'interrogations sur le monde, sur cet
c'est
univers.
Ça. Et il n'y a plus de sciences fondamentales possibles.
Et le médecin, la même chose. Alors le médecin, c'est l'hôpital. Alors bien sûr, c'est très noble de s'occuper des patients, etc. Mais ça n'est plus le médecin philosophe, le médecin qui s'interroge sur la vie, sur la philosophie, tout court.
Et de l'intérêt aujourd'hui de faire revivre véritablement cette histoire-là, c'est-à-dire de dire cette histoire-là, parce qu'au fond, cette histoire-là, elle fait étrangement écho à ce qui nous arrive aujourd'hui.
Tout à fait. Tout à fait. Cette fermeture, malheureusement, on la vit aujourd'hui. Moi, je parle d'un pays d'islam,
la Tunisie.
Et ce pourquoi je me bats, c'est justement de combattre l'obscurantisme. Mais moi, je veux combattre l'obscurantisme par le savoir. Je veux montrer que, en fait, nous avons pu être au devant de la scène, quand je dis nous, tous ces pays d'islam, parce que voilà, ce qui était important, c'était le savoir scientifique, indépendamment de toute autre considération. Et c'est pour cette séparation entre l'islam et la science que je plaide dans cet ouvrage.
C'est ça, pour une vraie séparation de la science et de la religion, comme c'est le cas notamment en France, pour une vraie séparation de la science et de l'islam.
Tout à fait.
Et c'est plus le cas. Or, ça a été le cas.
Il faut que la religion soit du domaine du privé. C'est dans ce sens-là. Et ce qui me semble très important, c'est qu'on ne peut pas faire de science si on a toujours le poids du référent, en fait, religieux, le poids du référent islamique. Et malheureusement, je m'étends sur la période du 19e siècle, cette période extraordinaire de la réforme musulmane, où il y a des grands réformistes tout à fait admirables.
Mais, sauf que cette réforme n'a pas pu aller au bout.
Mais ils n'ont pas eu, le courage. peut-être aussi n'avaient pas suffisamment la connaissance scientifique, voyez, pour plaider pour la rupture. Chose que, bon, Averroès, lui, plaidait pour, il mettait en avant la philosophie qui avait toute une réflexion autour de la philosophie et de la religion. Et ça a été, alors je reviens sur un moment très important à la fin du 19e siècle, les débats qu'il pouvait y avoir. Mmh. Parce que c'est ça, quand je dis aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que moi, si je reviens à l'histoire, si je reviens à ce 19e siècle, c'est parce que même si on n'a pas fait la rupture, mais je montre comment ce débat entre Farah Hampton, donc chrétien réformiste arabe, et Mohamed Abdou, musulman réformiste arabe aussi, comment, bon, tous les deux avaient la volonté de changer les choses, mais, voyez, Mohamed Abdou ne faisait pas le pas que faisait Anton en disant, voilà, il faut la sécularisation.
C'est ça, il faut séparer religion et science. Science et religion, pas de compromis possible. C'est autour de cette question que nous tournons. Et je vous propose, avant de continuer notre conversation, Fawzia Sharfi, d'écouter Vaya con Dios, la chanteuse de ce groupe de rock belge. Ne mâche pas ces mots non plus. Dans un sacré morceau, allez, prêtez-y l'oreille. Comme on est venu, on repartira.
Gardez vos homélies, vos psaumes, vos liturgies, vos aves, vos hosties, vos je vous salue Marie, vos rabbins, vos imams, vos barbes et vos soutanes, vos appels à la guerre, déguisés en prière, votre enfer et ses flammes, votre opinion des femmes, qui devraient se voiler la face parce que leurs mecs tiennent pas en place. Qui se font traiter de putes par ceux-là même qui les culbutent. Votre obsession de l'impur, y'a qu'une seule chose dont on soit sûr. Comme on est venu, on repartira. Comme on est venu, gardez vos hypocrisies, votre homophobie, vos chemins de croix, vos mitres et vos kippas, vos versets, vos adages, vos pèlerinages, vos vierges et vos martyrs, vos visions, vos délires. Gardez vos lamentations, vos prêches et vos sermons, vos saintetés séniles, vos prêtres pédophiles. Vos reliques, vos processions, vos sacrifices, vos excisions, vos anges et vos dorures, y'a qu'une seule chose dont on soit sûr. Comme on est venu, on repartira. Comme on est venu, comme on est venu, on repartira.
Comme on est venu, on repartira. Le groupe Vaya con Dios sur RFI. Autour de la question pourquoi pas ou plus de compromis possible entre science et religion. Notre invitée, la physicienne tunisienne Fawzia Sharfi, autour de son dernier essai percutant et salutaire, j'ai envie de dire indispensable, l'islam et la science. En finir avec le compromis, paru aux éditions Odile Jacob, et dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs qui êtes nombreux à réagir sur les réseaux sociaux, avec une pensée toute particulière à Mohamed Farhang qui nous écrit depuis Kaboul en Afghanistan. Kaboul, vous pouvez nous écouter, la fréquence est remise à Kaboul en FM sur 89.5. Et où, comme dit Mohamed, le régime ne reconnaît rien d'autre que l'islam. Vous êtes aussi nombreux depuis le continent à nous faire part de vos questions et de vos réflexions. On va essayer d'y répondre. Mais avant cela, et puisque nous sommes tous concernés, on l'a bien compris, au sud comme au nord, ben souvenons-nous, c'était il y a presque un an, le 16 octobre 2020, l'assassinat en France de Samuel Paty par un terroriste parce qu'il enseignait l'histoire et la géographie. Cette effroyable tragédie vous a aussi beaucoup marqué, choqué, Fawzia Sharfi. Vous allez nous dire pourquoi et comment cela vous a aussi incité à écrire ce livre manifeste. Vous allez nous dire, juste après avoir écouté ce poème, que le chanteur Gauvin Serse a dédié à Samuel Paty et qui a été lu pour l'hommage rendu à Samuel Paty le 21 octobre dernier dans la cour de la Sorbonne par le président de la République. Ce poème a été lu par une de ses collègues, Marie Cuireau, professeure elle aussi d'histoire-géographie.
À Samuel Paty. Paraît qu'on s'habitue aux larmes de la nation. Ce matin, on s'est tu sous le coup de l'émotion. Paraît qu'on s'habitue quand l'infâme est légion. Tous ces hommes abattus pour les traits d'un crayon. Paraît qu'on s'habitue à défendre à tout prix les trois mots qu'on a lus au fronton des mairies. Paraît qu'on s'habitue quand on manque de savoir. Par chance, on a tous eu un professeur d'histoire. Paraît qu'on s'habitue à la pire barbarie. Mais jamais on n'y a cru, et pas plus aujourd'hui. Paraît qu'on s'habitue aux horreurs qu'on vit là. Mais l'innocent qu'on tue, on ne s'habitue pas.
On ne s'habitue pas, on ne s'habituera jamais. Quand l'infâme est légion, extrait de ce poème écrit par Gauvin Serse en hommage à Samuel Paty. Fawzia Sharfi, c'est aussi à la suite de cet effroyable assassinat qui vous a donné en fait que vous avez repris aussi le combat et la plume pour écrire l'islam et la science. Ça vous a choqué et ça vous a incité à partager à la fois l'histoire de ce que pourrait être...
Tout à fait, oui. Ça m'a bouleversée, ça m'a révoltée. J'ai suivi en direct, hein, je suis très émue de réécouter ce texte. Non, on ne s'habitue pas à la barbarie, on ne s'habitue pas à l'horreur. On ne doit pas s'habituer au fait que l'obscurantisme comme ça nous côtoie, vous voyez, et qu'au fond, on peut trouver des raisons. Il n'y a aucune raison. Et c'est justement pour ça que j'ai écrit ce livre, « En finir avec les compromis ».« En finir avec les compromis ». Il n'y a pas de compromis avec ceux qui veulent nous abattre par leur ignorance. Et vraiment, l'assassinat de Samuel Paty, pour moi, c'est vraiment, je commence par cela, parce que...
Parce que là, l'affaire est grave et l'affaire est grave
l'affaire
partout.
L'affaire est grave et voilà, on ne tue pas quelqu'un qui a usé de son intelligence, de sa réflexion, puis voilà, le crayon devient maintenant un objet qu'il faut attaquer, vous voyez, le crayon, l'intelligence, la pensée. Donc,
mais il faut du courage aussi aujourd'hui pour vous, qui êtes une femme de premier plan, sur un plan politique en Tunisie, qui êtes professeure, physicienne. Il faut du courage aussi pour dire justement, finir avec les compromis. Moi, je défends le savoir, je défends la science et la religion, c'est pour l'intime, pour le personnel. Enfin, il n'y a aucun problème là-dessus, mais il faut quand même du courage aujourd'hui. Ou est-ce que ça va un peu mieux en Tunisie aujourd'hui? Une première ministre vient d'être nommée, enfin...
Oui, alors, je dis à la fin de mon livre, vous voyez, que moi, l'espoir m'habite aussi. Je dis, c'est l'horreur, cette horreur des assassinats me poursuit, mais l'espoir m'habite. Pourquoi il m'habite? Parce qu'il y a des penseurs en pays d'islam qui écrivent et qui osent justement avoir cette méthode scientifique pour analyser le texte coranique. Anas Rabouzid a travaillé le texte coranique en disant, mais vous savez, c'est ce que j'ai écrit dans mon dernier chapitre. On peut dire, mais ce dernier chapitre, vous êtes scientifique. Mais pour moi, ces penseurs de sens humain, ce sont des personnes qui, pour moi, ont cette méthodologie scientifique et ils osent. Ils ont énormément de courage. Eux ont du courage. Moi, je porte simplement leur voix. Parce qu'ils ont le courage de se séparer de ce référent islamique et d'étudier un texte sacré avec toute la distance qu'il faut.
C'est ça, de l'étudier avec le recul.
Voilà. Hein,
de séparer science et religion et même d'étudier un texte sacré,
oui,
qui est un texte que l'on peut étudier à la manière, avec la méthode scientifique, et qui, ça en apportera beaucoup, c'est-à-dire que ça ne va pas supprimer. C'est ce que nous dit un de nos auditeurs sur les réseaux sociaux, c'est Donald depuis au Cameroun, et il dit qu'il faudrait lever le tabou sur plusieurs sujets, sur les sciences humaines. Voilà, il reproche une forme de tabou, la biologie, les sciences physiques. Vous êtes d'accord avec ça? Il faudrait, enfin, il y a vraiment une chape de plomb qui pèse.
Une chape de plomb qui pèse, oui. Alors, vous voyez, par exemple, étudier Darwin, étudier la théorie de l'évolution. Bon, je montre comment Darwin a été reçu en pays d'islam à la fin du 19e. Mais en même temps, vous voyez, j'explique que finalement, Darwin n'a pas été traduit tout de suite. Donc ça aussi, c'est révélateur, vous voyez. Que l'on puisse étudier l'origine des espèces, et bien que l'on étudie cette question-là scientifiquement. Or, il n'y a pas de réaction scientifique aux travaux de Darwin dans cette deuxième moitié du 19e siècle. Et je montre comment, bon, certains essaient quand même de retenir quelques lois à propos de la sélection des espèces, etc. Mais c'est tellement confus, on est dans le début du concordisme, voyez. En finir avec les compromis.
En finir avec les compromis, on ne peut pas faire un peu et retenir de la science que ce qui correspond à nos croyances. C'est vraiment ça le problème.
C'est ça le problème. Bon, alors, quand on dit les croyances, c'est autre chose que la foi, voyez. Et malheureusement, aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, pourquoi la science est importante? Évidemment, elle est importante. Nous vivons cette pandémie, bon, on va bien dire le mot, c'est, au cours de cette émission. Mais nous nous rendons compte que la science n'est pas suffisamment comprise avec le temps long de la science. Et c'est pour ça que c'est vrai que quand on écrit, comme je le fais comme ça sur la science, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile parce qu'on peut dire, mais encore un livre sur l'islam et la science. Oui, mais non, mais là, c'est autre chose, vous voyez. Là, vraiment, aujourd'hui, il faut en finir avec le terrorisme, il faut en finir avec cette violence, mais il faut en finir avec intelligence.
Et avec c'est quelque ça. Chose à mettre à la place, quelque des valeurs, un savoir, c'est
fait.
Ça. Hein.
Moi, je suis pour... Je défends la laïcité. Mais justement, je termine ce livre en disant la laïcité, il faut la nourrir. Il faut expliquer... Qu'est-ce que c'est que la laïcité? Il faut expliquer ce qu'est la sécularisation et expliquer que ce n'est pas quelque chose qui nous est étranger, nous, pays d'islam. Quand on revient au premier siècle de cette science, qui est tous ces savants qui étaient, voilà, qui
c'est
font
ça.
Partie...
Au fond, c'est même né en terre d'islam, ouais. On peut le dire, hein, cette science-là, autour de la question comment justement nourrir la laïcité en finissant avec les compromis entre islam et science, Faouzia Charfi. Je propose un nouvel éclairage, vu d'ailleurs, cette fois-ci, vu de Saint-Louis au Sénégal, celui d'une autre femme professeure inspirante et engagée, Mam Pendaba, professeure de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Elle dirige le laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs d'Afrique et diaspora, le LASPAD. On l'écoute et vous réagirez ensuite, Faouzia.
On a malheureusement maintenant, dans beaucoup de pays à majorité musulmane, une sorte de classe ou de groupe qui se donne comme mission de veiller à la bonne moralité de tout le monde, y compris des chercheurs. Et quand un chercheur a un point de vue qui est en contradiction, pour aller vite, hein, avec des enseignements, que ce soit du Coran ou des hadiths prophétiques ou pas, il y a tout de suite cette montée de boucliers et puis il y a ces gens qui se pensent et qui se veulent être des avocats de la religion et qui ne savent même pas en faisant cela, qui sont en contradiction, moi je pense, avec la tradition islamique elle-même. Vous savez, vous connaissez forcément cette formule, ce hadith prophétique qui dit que les héritiers des prophètes sont les savants. Ce ne sont pas les martyrs, ce sont les savants. Donc la place du savant, la place de la connaissance, la place du savoir dans l'histoire de l'islam, c'est quelque chose qui est absolument important et central. Je n'ai pas encore lu cet ouvrage-là, mais je me promets de le faire parce que ce que vous en dites est extrêmement intéressant. Mais je pense qu'effectivement, il y a là quelque chose de l'ordre du courage. véritablement à avoir pour pouvoir dire ce que l'on pense, pour pouvoir le dire et dire même lorsqu'on n'est pas d'accord avec des propositions qui sont tirées du corpus. Il s'agit là d'un autre espace, qui est un espace parallèle, qui a ses propres règles. La science, ce n'est pas exactement la religion ou ce n'est pas la religion. Et le Coran n'a jamais, ne s'est jamais autoproclamé comme étant un manuel de science. C'est un livre pour guider des âmes, c'est un livre pour cette vie et l'au-delà, etc. C'est véritablement quelque chose qui est particulier. La science a ses propres règles, sa propre méthodologie, ses propres paradigmes. Et je pense que cet envahissement de l'espace de la science par, encore une fois, des personnes qui s'érigent en garant de la moralité, etc., c'est quelque chose qui est tout à fait problématique. Et les intellectuels du monde musulman, d'une manière générale, ont le devoir, là, de se poser, même pas en protecteur, mais parce qu'il faut tout simplement qu'on ait des débats apaisés, mais aussi des débats courageux. Je pense que le recul, la force des uns, vient du fait que d'autres aussi ont reculé, ont laissé l'espace et le chantier à des gens qui ont pris la place, y compris via une violence symbolique très forte, une violence des discours. Et il y a là effectivement quelque chose à rectifier.
Il y a quelque chose à rectifier, dit Mam Pendaba, qui le dit elle aussi avec une voix forte et courageuse, Fawzia Sharfi.
Tout à fait. Et quand cette jeune sénégalaise, c'est
absolument,
ça,
professeur,
parle du texte politique coranique, ce qui est très intéressant, justement, c'est de voir, par exemple, milieu du XXe siècle, les débats qu'il pouvait y avoir sur cette utilisation du Coran en tant que source de la science. Et je rappelle un débat qui a eu lieu, c'est très intéressant de revoir ça, 1957, le Spoutnik, traverse l'atmosphère, etc. Et puis alors un cercle culturel au Caire, on se réunit, c'est une tradition au Caire. La Caire était une grande ville intellectuelle. Et Emine El-Khouli, un des présents, explique que, mais non, le Coran n'a jamais parlé de conquête spatiale, contrairement à ce que certains des présents pouvaient soutenir. Donc voilà, c'est intéressant de voir comment, à l'époque, vous voyez, il y avait les contradicteurs. Et Emine El-Khouli, il revient à l'histoire et dit, mais vous savez, au 15e, 16e siècle, il y a des historiens, des historiens musulmans qui montrent très bien qui interprète ce fameux Coran où on dit « tout est dans le Coran », etc., qui dit « mais non, le Coran parle de guidance des hommes, il ne parle pas de science ».
Tout est une question d'interprétation. Vous avez du coup répondu à une question d'un de nos auditeurs, Kalilou, à Cotonou, au Bénin, qui disait « ben voilà, pourquoi est-ce qu'il y a déjà eu des découvertes scientifiques qui étaient évoquées dans le Coran ?» Ben, vous venez d'y répondre,
c'est
fait.
Ça,
c'est, il ne faut pas prendre un texte religieux, un texte de guidance pour les âmes, un texte spirituel, pour un texte de science. Ce sont deux textes différents.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Internet véhicule beaucoup ces fameux miracles scientifiques du Coran qui n'ont rien à voir avec l'aspect spirituel que l'on peut en tirer. Ou même, on pourrait revenir sur les analyses, les exégèses du Coran très courageuses qui ont été faites aussi au cours du XXe siècle, où on s'intéresse à l'aspect littéraire du Coran. Mm-hmm. Mais on peut s'intéresser à beaucoup d'aspects.
Bien sûr, ce sont des textes très riches, ne mélangeons pas tout.
À une seule condition, c'est qu'on ait le regard lucide du scientifique, le regard lucide aussi du citoyen qui fait la part des choses, voilà.
Et un autre auditeur, Miguel Capitao, qu'on salue à Brazzaville, il vous demande finalement, mais au fond, comment pratiquer la science avec tous les problèmes liés au terrorisme et de peur aussi d'apporter la connaissance aux terroristes? Que pouvez-vous lui répondre?
Alors,
ça, c'est
La question, justement, vous voyez, tout à l'heure, quand j'ai dit il y a un retour, la science n'avait pas complètement disparu en pays d'islam, mais on s'est contenté de sciences utiles. Mais en fait, la science aujourd'hui, dans beaucoup de pays, malheureusement, pas seulement de pays d'islam, est souvent enseignée un peu comme un dogme.
Ouais, complètement, bien sûr.
Il n'y a pas de richesse, il n'y a pas d'histoire, on ne suscite pas ou on ne cultive pas la curiosité de nos enfants. Mm-hmm. Au contraire, on les abrutit comme ça.
Abrutit de chiffres,
voyez,
ou de techniques ou de technologies rapides.
Donc c'est ça aussi la question. Quand on dit mais le terroriste, bon. Alors, c'est très compliqué. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'on devient... Mais De toute façon, pour moi, l'interrogation, la richesse que l'on peut avoir en lisant de la littérature ou en lisant des textes scientifiques, s'ouvrir l'esprit, c'est ça qui est important.
C'est aussi. ça, en fait, et s'ouvrir l'esprit, et sortir de ces structures mentales, finalement, qui nous font n'écouter que ce qu'on veut entendre.
C'est
ou
vrai,
c'est ça.
Mais en même temps, il faut réaliser que c'est un long chemin et que peut-être que parfois, effectivement, c'est plus difficile de convaincre quelqu'un de ce qu'est la science que, au fond, de l'amener à des croyances un peu suspectes.
Et oui, absolument.
Quand on voit tout ce qui se fait aujourd'hui autour de la mécanique quantique, la physique quantique, etc., on voit toutes ces dérives.
Mais c'est plus facile d'aller dans la dérive et dans les biais, on en a parlé dans ces émissions-là. C'est plus facile que dans la vérité du savoir et du questionnement.
C'est ça, et du questionnement et du doute. Et c'est un fait que, malheureusement, les réseaux sociaux, Internet, jouent contre l'intelligence, souvent. Je ne dis pas, parce que moi, pour travailler ce livre, la liste d'amélioration, j'ai profité d'Internet, de tellement de lectures enrichissantes. Mais là, il faut être soutenu aussi. C'est pour ça que, vous savez, c'est facile de dire, bon, dans nos pays, mais... Dans nos pays, ou en France, oui, il faut susciter un peu la curiosité par rapport à l'histoire. Moi, je crois beaucoup à l'histoire. Hein. On parlait du regretté Samuel Paty, parce que voilà, lui, il avait cette passion de l'histoire.
Hein. Replacer dans son contexte.
Et ça, c'est aussi très enrichissant.
Parce et que ne pas la se science faire
toute
avoir.
Seule, pour moi, ne suffit pas.
Attention, bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut vous lire, parce que ce n'est pas qu'un livre de science, l'islam et la science, sans finir avec les compromis. Allez, on continue de s'interroger avec vous, Fawzia Sharfi, car il y a des pistes, hein, vous avez l'espoir, vous l'avez dit, et tout n'est pas du tout encore perdu. On va le découvrir après une bouffée d'air et de liberté insufflée par la chanteuse du printemps tunisien, Emel Matlouti, avec son titre « Mes paroles sont libres », ça se dit, oh je vais mal le prononcer, vous allez m'aider, Kelmti.
Kelmti Horra,
version arabe. My word is free en version anglaise et ma parole est libre en version française sur RFI. Kelmti Horra, la chanteuse du printemps tunisien, est-elle Emel Matlouti, qui a repris donc l'hymne du printemps tunisien, Ma parole est libre, avec des musiciens et des chanteurs de tous les pays. Ça fait chaud au cœur,
oui,
ça nous redonne
Fawzia
Sharfi, ça nous redonne l'espoir que la science, elle aussi, comme l'art, peut redevenir universelle. En tout cas, on n'a pas vraiment le choix, mais comment? C'est le tout sens de la question que vous adresse Fawzia Sharfi, le physicien et philosophe Étienne Klein, grand passeur de science lui aussi, qui était récemment notre invité.
Bonjour Fawzia Farida Sharfi. J'ai une petite question à vous poser. La science a prétention à être universelle, mais on voit bien qu'en réalité, elle est toujours mêlée à des interprétations culturelles qui parfois la dévoient. Est-ce que vous pensez que par des efforts d'éducation, la science pourrait atteindre l'universel dont elle se réclame ?
Qu'en pensez-vous, Fawzia Sharfi ?
Je plaide justement pour la science universelle. Bien sûr. Pour ça que lorsqu'on me parle d'islamisation de la connaissance, c'est la négation même de la connaissance. Et puis, bon, c'est vrai que dire aujourd'hui la science est universelle, bon, il y a les obscurantistes d'un côté, mais il y a aussi tout ce relativisme culturel qui ne joue pas en faveur de l'universel.
C'est ça.
Je plaide pour l'universel.
Pour l'universel.
Et parfois, vous voyez, je vais jusqu'à dire finalement, moi, femme du Sud, je vois le Nord comme ça m'accrocher sur la question de l'universel. C'est comme si c'était un peu naïf aujourd'hui de parler d'universel. Mais la science universelle, je parlais d'Abdeselem tout à l'heure. Ben, vous voyez, quand il parle du déclin des sciences, ce qui est extraordinaire chez Abdeselem, c'est qu'il dit, vous voyez, il y a eu des grands moments dans l'histoire. Et il compare la cathédrale de Saint-Paul et l'Inde du Nord avec ses grands palais, etc. Mais il dit, vous voyez, il y a quelque chose qui n'a pas existé en pays d'islam. C'est la théorie de Newton, un grand moment. Ça aussi, c'est un grand monument de l'histoire.
C'est ça
que je voudrais que tous ces jeunes qui racontent des histoires sur les miracles du Coran, non, se tournent plutôt vers cet universel, cette science qui nous permet de nous ouvrir à toute la suite de cette belle histoire qu'est l'histoire de la physique, cette... Oui,
et qu'on continue et que tout le monde y participe.
Que tout le monde y participe.
Au nord comme au sud, en orient comme en occident.
C'est une langue universelle. C'est un
la
fait
science,
que
hein.
la
ouais.
science... C'est par cela que moi, je me sens... Oui, quand j'écris ce livre, je me sens faire partie de cet universel, évidemment, que je défends.
Et comment vous faites pour ne pas perdre, justement, moi je ne parle pas de naïveté, mais votre curiosité, votre ténacité et votre espoir. Parce qu'on le sent bien, lire ce livre, ça insuffle quelque chose. On dit, tiens, voilà, c'est peut-être ça qu'on a à défendre, c'est-à-dire aujourd'hui, demain, ensemble, oui, l'universel, le savoir, la connaissance, un vrai humanisme partagé et qui peut être discuté, débattu. Comment vous faites pour garder cette flamme-là, Fawzia ?
Bon, comment faire pour garder cette flamme ? D'abord le partage. Moi, j'aime partager les idées. C'est vrai que tout à l'heure, vous avez dit, mais oui, on peut oser. Mais la question, moi, je ne cherche pas nécessairement à ce que nous soyons tous d'accord, mais que nous puissions débattre, que nous puissions échanger. Qu'aussi, peut-être, de cette Europe, qu'on puisse regarder les autres pays qui sont aujourd'hui peut-être pas aussi scientifiques qu'on l'aimerait, mais voilà, qu'il puisse y avoir encore ces échanges entre nos pays. C'est ça qui me donne l'espoir.
C'est le meilleur qu'on puisse se souhaiter. Merci infiniment, Fawzia Sharfi, d'être venue en direct dans notre studio à Paris, partager donc... un peu de désespoir, mais surtout beaucoup d'espoir. Le meilleur de l'histoire des sciences en pays d'islam, le meilleur pour notre avenir à tous. Je rappelle le titre de votre essai, à mettre vraiment entre toutes les mains. On l'a dit, l'islam et la science, en finir avec les compromis. Essai qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Et nous avons, je vous le rappelle, chers amis auditeurs, un exemplaire à vous offrir. Si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook, en précisant bien votre adresse postale. Merci Fawzia Sharfi, et vous revenez quand vous voulez. Dès que vous venez à Paris, bienvenue dans notre studio.
Merci à vous. Merci.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à notre podcast. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses, Caroline Achowski au micro pour vous servir en compagnie d'un des plus éminents neuroscientifiques français, le professeur Stanislas Dehaene, qui vient de publier Face à face avec son cerveau, autour de la question, comment le cerveau peut-il s'explorer lui-même ? À suivre demain. Merci pour votre curiosité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de Riff.
L'Afrozouk est devenu...